Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
7h45, merci d'écouter RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem.
Bonjour à vous, Najat Vallaud-Belkacem.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ce matin, vous allez nous dévoiler votre plan pour améliorer les remplacements des profs, sujet très sensible, en particulier chez les parents. On va aussi parler de François Hollande, avec lequel vous étiez hier à Florange. Mais d'abord, cette conjonction de violence qui nous frappe ce matin, et qui frappe l'école surtout. Des cocktails Molotov lancés contre les grilles d'un lycée à Tremblay, en France, en Seine-Saint-Denis. La proviseure a été frappée, la gardienne du lycée aussi. C'est la troisième fois que ce lycée est frappé en trois jours. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut travailler dans ces conditions?
D'abord, c'est vrai qu'il y a en Seine-Saint-Denis et dans le Val d'Oise, depuis quelques jours, une montée des violences à l'égard, j'allais dire, des fonctionnaires, parce que ça vise aussi bien les policiers que les enseignants, les proviseurs, qui commencent à faire beaucoup. Et donc, il faut condamner absolument chacun de ces actes et déposer plainte. Nos rectorats, pour ce qui concerne nos personnels enseignants, les accompagnent à chaque fois pour qu'une plainte soit déposée et que les agresseurs soient sanctionnés comme il se doit.
Vous voulez dire que ce n'est pas l'institution scolaire qui est visée en l'espèce là?
Là, en l'occurrence, à Tremblay, comme visiblement à Argenteuil ce matin, enfin, il semblerait que ce soit des éléments extérieurs aux établissements scolaires qui étaient les auteurs des coups et des agressions. Ça ne rend pas les choses moins graves, mais disons que ça n'est pas un sujet scolaire à proprement
d'accord,
parler.
Mais est-ce que vous n'avez pas d'explication particulière alors pour que ces violences se manifestent comme ça sur un temps tellement limité?
On a vu aussi des violences à l'égard des policiers. C'est tout aussi condamnable et c'est tout aussi grave.
C'est le même phénomène.
Donc, pas d'explication particulière, si ce n'est peut-être un appel à ce que chacun prenne conscience de la gravité de ses actes. Parce que ce qu'on constate aussi, c'est une espèce de phénomène de bande qui fait que des individus peuvent se retrouver à faire des choses extrêmement graves, à agir, comme ça a été dit, en criminel, en assassin. Enfin, je pense en particulier aux policiers qui ont été touchés à Viry-Châtillon. Là, en l'occurrence, quand nos personnels de l'éducation nationale sont touchés, c'est tout aussi grave et il faut absolument déposer plainte. Je le leur dis parce que certains d'entre eux peuvent parfois considérer que ça n'est pas si grave, qu'il faut reprendre le travail aussitôt, etc. Je les remercie d'ailleurs d'avoir...
L'enseignant, effectivement, d'Argenteuil, qui a été frappé sous les yeux de sa classe hier sur le trottoir par deux jeunes, très jeunes, qui manifestement l'ont traité de raciste. D'ailleurs, est-ce que vous avez confirmation de ces allégations? Ils auraient dit même il n'y a qu'un seul maître, c'est Allah. Est-ce que vous en avez entendu parler ou...
Alors, pour l'instant, ce sont des témoignages que j'ai entendus indirect. Comme vous. Je n'en ai pas confirmation. Non, mais évidemment, il va y avoir...
Il veut retravailler, il veut être devant sa classe.
Enquête, instruction pour vérifier tous ces points. Et lui, il semblerait avoir dit qu'il veut retravailler tout de suite. Moi, le conseil que je donne à nos personnels dans ces cas-là, c'est quand même de se poser, parce que je pense qu'il y a quand même un traumatisme, de prendre soin d'eux. L'institution est là pour les accompagner, pour les remplacer. On va parler de remplacement dans un instant. Mais voilà, ce sont des faits graves qu'il ne faut surtout pas traiter à la légère.
Et qui relèvent d'un climat de violence générale de la société. Vous n'avez pas de remontée à y par ailleurs d'un climat de violence qui frappe l'école en
général. Non, je n'ai pas de remontée par ailleurs. Ce que je constate, c'est que, encore une fois, c'est dans ces territoires, la Seine-Saint-Denis, le Val d'Oise, que ces derniers jours, il y a eu une flambée des violences assez importante. Et notamment à l'égard de tout ce qui représente l'institution. C'est là-dessus que je voulais insister. Raison de plus d'ailleurs pour être derrière nos fonctionnaires et les défendre et ne rien laisser passer.
Alors, défendre aussi les enseignants, c'est aussi le cas du remplacement, enfin le dossier du remplacement dont vous saisissez pour la première fois depuis que vous êtes ministre ce matin. Je disais, c'est un gros sujet de préoccupation. 5000 journées non remplacées d'après la FCPE depuis le début de l'année. Ce sont des remontées qui sont faites par les parents. Vous aurez à la rentrée 2017, d'ici à la rentrée 2017, créé 5000 postes en plus pour le vivier de remplaçants. Qui compte combien 50 000 personnes?
Oui, c'est cela. Alors juste, je vous corrige sur une chose, ce n'est pas la première fois que je me saisis du sujet, soyons clairs. Se saisir du sujet du remplacement, et vous avez raison de dire que les parents sont préoccupés de cette question. C'est d'abord créer des postes pour qu'il y ait des hommes et des femmes en capacité de remplacer leurs collègues lorsque ceux-ci tombent malades, parce que c'est de ça qu'on parle. Hein. Et à cet égard, j'ouvre une parenthèse. Dans l'éducation nationale, contrairement aux préjugés, les enseignants sont moins absents que dans le reste des fonctions publiques, voire même à certains
pour
égards
des congés
du privé.
Maladie.
En fait, vous regardez hein, les chiffres. En moyenne, c'est 6,6 jours d'absence contre 7,1 pour l'ensemble de la
Est-ce que fonction publique. Est-ce que vous comptez dans ces absences les absences qui sont créées par l'éducation nationale elle-même, qui organise finalement son propre absentéisme avec des formations, des surveillances d'examen, des réunions sur les heures de cours, autant d'heures perdues par les élèves? On dit que ça constitue en tout un tiers des absences.
Alors, les formations, quand il y a formation continue, et tout le monde conviendra que c'est une bonne chose que les enseignants soient formés, on ne peut pas vouloir tout et son contraire. Nous avons créé des postes de remplaçants spécial formation. Donc non, les formations ne se font pas au détriment des enseignements, bien entendu. Mais il y a une chose qui est vraie, et ça fait partie des mesures que j'annonce ce matin, c'est que l'idéal quand même, c'est que ces formations puissent avoir lieu hors temps scolaire, et donc sur des périodes de vacances, y compris en proposant aux enseignants volontaires pour le faire d'être rémunérés pendant ces périodes, et ça fait partie des dispositions qu'on adopte ce matin.
Ça fait partie des mesures, c'est-à-dire que vous proposez finalement un volontariat rémunéré pour que les profs fassent leur formation plutôt sur les vacances, pas les grandes vacances comme on disait avant.
Les vacances de Noël, de Toussaint, de février. Exactement. De la même façon, l'autre motif d'absence possible des enseignants, encore une fois, on est à la marge là, parce que le vrai motif, c'est les maladies, tout simplement. Mais enfin, l'autre motif possible à côté des formations, c'est le fait que les enseignants puissent participer à des jurys d'examen ou de concours. Et là, la règle qui est adoptée ce matin, c'est de dire ces jurys, dans la mesure du possible, se tiendront les mercredis après-midi.
C'est la consigne que vous donnez, effectivement. Voilà. Donc, ce sont des profs qui pourront être volontaires. Ça n'avait pas marché, je crois, pour la réforme des collèges. Vous avez proposé des formations pendant les petites vacances. Il n'y avait pas eu, d'après les remontées qu'on a, énormément de candidats.
Permettez-moi là aussi de rectifier. Les remontées, c'est nous qui les avons. Et je peux vous dire que ça a très bien marché. Ça n'a pas concerné tous les professeurs de collège, mais ce n'était pas la vocation de ce dispositif. Mais nous avons bel et bien eu, dans toutes les académies, de nombreux professeurs qui sont venus se former pendant les vacances. Et de fait,
parce que vous avez beaucoup de mesures qui sont intéressantes.
Revenons aux absences telles qu'elles sont constatées, c'est-à-dire essentiellement pour maladie. Encore une fois qu'on a précisé qu'il n'y a pas plus d'absentéisme dans l'éducation nationale qu'ailleurs, il est vrai que c'est plus problématique dans l'éducation nationale qu'ailleurs, parce qu'à chaque fois, ça se compte en heures de temps perdu pour les élèves. Pour la première fois, nous rendons public un indicateur de heures non remplacés pour les élèves, d'accord ? Donc au niveau national, sachez que dans le premier degré, c'est-à-dire école maternelle, école primaire, eh bien vous avez 13 heures qui ont été perdues sur l'année dernière pour cause d'absence non remplacée.
Dans le second degré, c'est une moyenne.
Collège, lycée, 29 heures.
C'est vrai
Ensuite, vous avez des disparités, en effet, parce qu'il y a des...
En région parisienne en particulier,
Créteil et Versailles. Il y a des académies où il y a
un taux d'absence plus élevé. Par cet indicateur, vous voulez dire aux académies justement où il y a des problèmes, attention, régler la situation.
D'abord, je veux faire la transparence. Parce que les fédérations de parents d'élèves, depuis un certain temps, rendent public des chiffres et je trouve que c'est une bonne façon de procéder. Alors, elles rendent public des chiffres qui sont imparfaits parce qu'elles n'ont pas... c'est pas scientifique, elle donne ce que les parents leur remontent, mais qui n'est pas exhaustif. Nous, aujourd'hui, nous avons les moyens d'être enfin exhaustifs. Et faire la transparence, c'est voir comment les choses évoluent d'une année sur l'autre, et c'est voir d'une académie à l'autre laquelle gère le mieux ce problème. Mais je reviens maintenant aux solutions. Les solutions, c'est de créer des postes. Pardon, Elisabeth
Martichoux. Mais vous l'avez fait, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez 5000 postes créés.
Mais je le redis pour que tout le monde l'entende. Le jour où certains voudront se remettre à supprimer des postes dans l'éducation nationale, à nouveau, on sera confronté à la difficulté de remplacement. Depuis 2012, contrairement à ce qui avait été fait auparavant, nous avons créé, donc jusqu'en 2017, 5000 postes pour nourrir ce vivier de remplacement. La deuxième solution, une fois qu'on a les hommes et les femmes pour remplacer, c'est d'améliorer la réactivité et notamment de faire en sorte que quand on cherche un remplaçant, on puisse le faire sur un périmètre plus large au niveau d'un département tout entier, qui est un vivier qui soit plus facilement accessible et mobilisable.
C'est-à-dire que les professeurs remplaçants seront plus contingentés sur une zone géographique particulière, ils pourront aller au-delà. Et vous avez négocié ça avec les syndicats,
Et plus contingentés non plus sur des durées de remplacement. Parce que jusqu'alors, on avait des règles très compliquées, cloisonnées, où les enseignants étaient faits soit pour remplacer sur courte durée, soit sur longue durée. Ils ne pouvaient pas se remplacer les uns les autres. Ce qui faisait que les parents voyaient arriver plusieurs remplaçants successifs dans la classe de leurs élèves. Ça, demain, c'est fini grâce aux règles que nous adoptons. Ce sera un remplaçant quand on en a besoin, il restera le temps qu'on en a besoin.
Vous étiez hier avec le président Hollande à Florange. Est-ce que vous l'avez trouvé ébranlé par la publication du livre des confidences ?
Écoutez, nous sommes allés à Florange Moi, j'ai trouvé vraiment cette séquence extrêmement intéressante. Parce que
Ma question est précise. Oui. Il a dit dans son livre, Najat Vallaud-Belkacem, elle est très forte en langue de bois. C'est lui qui le dit. Alors, ne faites pas de langue de bois. Est-ce que vous l'avez trouvé ou pas ébranlé par le livre de confidence? Et est-ce que vous trouvez que ce livre tombe bien pour le président Hollande?
Alors, pourquoi est-ce que je voulais vous parler de Florence? Je vais vous répondre. Moi, le livre, honnêtement...
Répondez-moi d'abord, honnêtement, parce qu'après, on n'a plus le temps.
Non, mais tout a été dit sur le livre. Je ne rajouterai pas mon commentaire au cœur des commentaires.
Vous n'avez aucun avis, aucune conviction sur ce livre?
Oh, si, je pense bien des choses de ce livre et je les ai dites au président de la République. Mais sur Florange, un moment, juste sur Florange. C'était fascinant de voir dans la discussion avec les syndicats de Florange, et notamment la CFDT, la CFE, qui représentent 70% des salariés de Florange, à quel point ils considèrent que les réponses apportées à Florange auront été un succès et auront permis de sauver cette entreprise.
Très bien, Najat Vallaud-Belkacem, le président Hollande lui-même l'a dit hier,
pourquoi est-ce que c'est important? Parce que le récit médiatique qui est fait autour de Florange aujourd'hui n'est pas celui-là. Donc je constate qu'il y a un décalage entre ce qu'on nous dit de Florange aujourd'hui et la réalité que j'ai pu constater hier en discutant avec les syndicats et les salariés.
Est-ce qu'il doit être
candidat? Donc moi, c'est le seul sujet qui m'intéresse, puisque c'est du bilan de François Hollande.
Le sujet qui intéresse les Français, est-ce qu'il doit être candidat ou pas?
Eh bien, considérant qu'il a et la légitimité et le bilan pour être candidat, oui, je pense qu'il sera candidat. Et je vous dis, Florange, de ce point de vue, est un très bon exemple si on prend le temps de s'intéresser au fond.
Merci beaucoup, Najat Vallaud-Belkacem.
Sur les violences visant les professeurs, nous porterons plainte et nous serons auprès de nos professeurs, vient de nous dire Najat Vallaud-Belkacem. Et pour les fameux remplacements, les professeurs remplaçants ne seront plus contingentés ni géographiquement, ni en temps. Merci à tous les deux. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.